Compagnons de l'Ordre, épisode 9.
Bon, mon bonnet, on en était où?
On était à ce qu'il y a, le bonnet.
Mais non, avant.
Oui, bah avant, ce n'était pas bien glorieux. Non content de s'être goinfré comme des gorées, nos aventuriers s'adonnaient à des jeux stupides, auxquels Wally venait de mettre fin en utilisant des termes assez colorés qui a heureusement censuré.
Ouais, bah de toute façon, il était temps pour eux de descendre vers les tribunes officielles. Il est temps d'assister au spectacle qui risque fort de leur plaire.
Après un repas bien trop copieux, une foule bruyante se massa autour de la vaste arène herbeuse. Le capitaine guida le groupe vers un emplacement réservé aux invités de marque, juste au-dessous des tribunes royales.
Hey, « Eh, regardez, il y a le héros-héros là-bas » remarqua Rohor.
« Qui ?» demanda un grand gaillard surexcité en brandissant une gigantesque chope de bière.
« Le gros là-bas, » indiqua le troll, « c'est le héros de l'arène. Il s'appelle Monsieur Petit Pataplou. »
Wally lui envoya un coup de coude, mais c'était trop tard. Le spectateur braillait déjà à tue-tête, bientôt imité par une foule survoltée.
« Ti Pataplou ! Ti Pataplou ! »
Qu'est-ce que c'est que cette foutaise ? Fulmina discrètement le duc de Filoche, très contrarié à son acolyte. « Pourquoi ces crétins braillent-ils, ce nom débile ? »
Je crois que c'est vous qui les acclame, et il semblerait qu'ils croient que c'est votre nouveau nom.
Si j'attrape le salopard qui m'a affublé d'un sobriquet aussi grotesque, je lui fais arracher les bras, et je lui enfonce moi-même dans la gorge, conclut-il furieux, avant d'afficher un sourire de circonstance au prix d'un violent effort. Après avoir escaladé la dizaine de marches menant à la chaire qu'il occupait fièrement pour chaque tournoi, le héros de l'arène balança un coup de pied rageur dans la cage du gnome hurleur dissimulé à ses pieds.
« Chers amis !» hurla le petit personnage de sa voix de stentor, répétant mot pour mot ce que disait le duc.
« Soyez les bienvenus autour de l'arène de justice, où, pour célébrer le 17e anniversaire de notre princesse bien-aimée, les meilleures lames du royaume vont s'affronter !»
Des hurlements de joie ponctuèrent l'annonce du bedonnant.
« Ce soir, » reprit le gnome après un nouveau coup de pied, « le vainqueur qui se sera auréolé de gloire en baignant le sol de l'arène du sang de ses adversaires deviendra l'accomplissement de la prophétie des oracles Granalco et se verra décerner un honneur sans précédent. »
Un silence tendu planait à présent sur la foule, pendu aux lèvres du vaniteux héros gonflé d'importance.
« Conformément à la tradition ancestrale que nous a révélée le grand mage Touche-Camperce, la main de notre bien-aimée princesse Linéa sera offerte au vainqueur qui terrassera son champion. »
Dans la tribune surplombant les gradins, les yeux de la petite princesse, dignement assise sur son trône à côté de sa mère, se mirent à flamboyer de haine, contrastant dangereusement avec la soudaine pâleur de son visage. Un tonnerre d'acclamations ponctua la légation du duc de Filoche. Dans les tribunes, les spectateurs, au comble de l'excitation, brandissaient des rubans de couleur et jetaient en l'air leur couvre-chef dans un tumulte infernal. Les jumeaux ne purent résister longtemps à cette occasion rêvée. Tous deux filèrent comme des flèches au milieu de cette cohue où ils s'ingénièrent à prouver le bien fondé de la théorie des vases communicants en emplissant leurs poches au fur et à mesure que celles des supporters se vidaient. Rohor, désireux de sacrifier à ce qui semblait être une coutume locale, attrapa de sa grosse main le joli chapeau de velours bleu canard de son voisin de gauche et l'envoya voler en l'air, accompagné de la perruque qui coiffait au moment auparavant l'importuné spectateur. Le dignitaire cramoisi porta ses mains à son crâne luisant et fit volte-face pour voir qui avait l'outrecuissance d'oser s'en prendre à sa noble personne.
« Jeune homme » s'étrangla-t-il de sa voix stridente. « Vous en répondrez !»«
Oh, désolé, je vais vous la rattraper !» s'excusa le troll en lui collant dans le dos une tape amicale dont le manque de mesure fit voler le dentier de l'indigné une vingtaine de mètres plus loin.
Wally s'étranglait de rire au moment où la voix du gnome hurleur retentit à nouveau.
« Notre bien-aimée princesse va à présent choisir son champion !» Que les concurrents veuillent bien former une ligne devant la tribune royale. Les duels s'effectueront au fleuret et seront arbitrés comme de coutume par moi-même, votre dévoué duc de Filoche. »
Une bousculade sans nom se forma rapidement à l'entrée de l'arène, d'où furent chassés sans ménagement tous les prétendants non issus de la noblesse. Après une bonne heure d'attente, heureusement ponctuée par le spectacle de musiciens, jongleurs, acrobates et autres artistes plus ou moins doués, une file d'une trentaine de courtisans, au juste au corps collant et aux couleurs criardes, s'étirait devant la tribune officielle. Les fins escrimeurs s'assouplissaient et préparaient déjà leurs attaques en mimant fleuret à la main, quintes, cartes, fentes, ainsi que toutes sortes de passes et de bottes improbables. La reine Algarde se leva et enjoignit à sa fille de faire de même. « Allons choisir notre champion, » dit-elle. « C'est le comte Valgor, grand brun avec les cheveux bouclés. Vous ferez mine de jeter un foulard qu'un enchantement conduira directement vers cet intéressant jeune homme. » Mais ma mère, protesta Linéa avec douceur en lui prenant la main et en la regardant bien en face de ses grands yeux candides. « C'est impossible! Je vais me marier avec une terrine de pâté !» La reine, qui décidément trop émotive, était incapable d'assimiler une information sans en former l'image dans son imagination, tomba une fois encore en pâmoison, s'affalant mollement sur son trône. La princesse ramassa le foulard de soie rouge enchanté et s'y moucha abondamment avant de le coincer sous son pied, afin de l'empêcher de s'envoler vers le comte. Tirant de sa manche un autre foulard, elle tendit le bras en l'air d'un geste majestueux et le brandit devant la foule en délire. Sur la chair du maître de cérémonie, le gnome hurleur, qui reçut un nouveau coup de pied, braqua sur le duc un regard mauvais. « Notre princesse bien-aimée va à présent désigner son champion en lançant au vent un foulard que la destinée conduira vers l'élu. »« T'as bien pigé, saleté » chuchota-t-il à l'intention du gnome sans remuer les lèvres. « Allez, répète et mets-y de la puissance. Je veux qu'on entende ma voix jusqu'à l'autre bout de la ville. » Face au mutisme du gnome renfrogné, le duc écrasa cruellement l'un des pieds du malheureux prisonnier. Commençant à répéter de sa puissante voix grave le début de la phrase, le gnome termina sur une voix de fausset, complètement ridicule, ponctuée de raclements de gorge répugnants et terminée d'un chapelet du rang choisi. « Hé, petit pataplot, bouffe une poignée de gravillon, tu parleras comme un homme !» beugla une grosse femme en brandissant une volumineuse chope de bière naine. Une explosion de rire s'éleva aussitôt autour d'elle et se propagea au public tout entier, d'où fusèrent moult moqueries et provocations. Il fallut un bon quart d'heure à la foule pour s'apaiser. Lorsque le calme fut en partie revenu, tous les regards se tournèrent vers Linéa, qui, altière et impassible, tenait toujours à bout de bras le foulard bleu que le vent agitait doucement. Au creux de sa main, l'autre extrémité du carré de soie était solidement nouée à un lourd anneau d'or.
« Je vais les laisser mijoter un moment, pensa-t-elle, mais après, il s'agit de ne pas louper mon tir. Plus qu'à espérer que le destin me donne un coup de main. »
Dans l'arène, les 30 prétendants firent de leur mieux pour se faire remarquer par la princesse. Ceux qui étaient plutôt sportifs brandirent tout ce qu'ils avaient à brandir, exhibant des biceps un peu décevants ou bombant le torse, comme des coqs dans une basse-cour. Ceux à qui les pectoraux faisaient défaut tentèrent bien de bomber les genoux, mais sans conviction. Pendant que plusieurs personnages essayaient d'attirer l'attention de la princesse, faisant montre de leur adresse ou de leur rapidité, une majorité de prétendants multipliaient les clins d'œil outranciers ou les mouvements de tête faisant voler leurs mèches de cheveux à la façon prince de Lu. Des sourires conquérants et plein de dents, tellement polis que le soleil s'y reflétait en petits flashs agaçants, ajoutaient le mauvais goût à la niaiserie. Deux grands bénets qui n'avaient pas encore bien intégré la disparition de l'agnelaire royal émirent des bêlements assez convaincants, provoquant l'hilarité de la foule. Lorsque le calme fut revenu, Linéa, sur qui tous les regards étaient braqués, dirigea avec élégance son joli foulard vers chacun d'eux, avant de projeter d'un geste vif et précis la lourde bague qui plombait le carré de soie. Celui-ci décrivit une longue parabole avant de percuter le crâne de Rohor, émettant un toc retentissant. « Aïe !» protesta le troll en frottant son cuir chevelu, sans comprendre que la facétieuse princesse venait de le choisir comme champion. Le murmure de consternation qui parcourut l'assistance n'atteignit en rien l'humour provocateur de Baclor. « Eh, ben dis donc, ça sonne creux !» lui assena-t-il en se fendant d'un large sourire. « Quoi, c'est toi que je vais sonner creux ?» oui, brailla Rohor avant de bondir sur le nain en brandissant un fauteuil dont l'occupant se trouva éjecté dans la plus grande panique. « Ouais, une bagarre !» hurlèrent les spectateurs qui reçurent le malheureux Kidam volant. Quelques pins eurent à peine le temps de s'échanger qu'une voix tonitruante s'élevait de la chair du duc de Filoche. « C'est bien fait !» hurlait la voix. « Ça t'apprendra à respecter le petit personnel, gros lard. Puis comme ça, tout le monde saura que tu te déguises en danseuse du ventre pour tes soirées scato !» Les cris stridents qui ponctuèrent cette scandaleuse déclaration se perdirent dans le tumulte indescriptible qui suivit. En effet, les passionnés de joute surexcités par la désignation d'un champion aussi imposant hurlaient de joie. Ils s'agitaient en tous sens, montaient sur leur siège. Certains dansaient frénétiquement pendant que d'autres, à quatre pattes, s'affairaient déjà à confectionner des banderoles à l'effigie du nouveau héros désigné par la princesse. Wally profita de l'agitation pour se métamorphoser en chauve-souris et fonça au secours du malheureux gnome hurleur qui subissait la rage aveugle du duc à la réputation irrémédiablement ruinée. Le capitaine Dracor fit sonner tous les cuivres de la garde, rétablissant un semblant d'ordre. Rohor fut conduit près de la petite princesse qui essaya en vain de lui nouer le foulard de soie autour du biceps comme l'exigeait la tradition des duels. Le tissu se révélant trop court pour ceindre le musculeux bras du troll, Linéa resta un moment perplexe, se demandant où nouer la royale distinction. Elle essaya d'abord autour du doigt du troll, avant de constater que cela donnait l'impression qu'il portait une grosse bague tape à l'œil.
« Autour de l'oreille !» brailla la voix gouailleuse de Stirlord.
Au moment où la princesse allait tester cette singulière idée, sous l'œil réprobateur de Rohor, celui-ci noua lui-même le foulard à la courroie de cuir qui barrait son large torse pour maintenir ses épées courbes dans son dos.
C'est gentil de m'avoir choisi, remercia le troll tout content. Alors, je vais avoir le droit de jouer avec tous ces gens déguisés en guignol?
Faudrait lui trouver une tenue, braya Baclore, tout fier de son idée. Sinon, ça va faire désordre.
Eh, hey, boule et nabos, ça suffit, menaça le troll. Moi, je veux aller jouer avec les cotons-tiges là-bas. Ça commence quand?
Se renseigna-t-il avec un sourire carnassier.
Il semblerait que le duc de Filoche ait un problème avec son gnome hurleur.
Allez donc voir, capitaine, et je veux que ce soit vous qui vous occupiez de l'arbitrage.
Le capitaine Drakkor trouva le duc vomissant tripes et boyaux, pendant que Wally, accroupi devant la cage, calmait la petite créature.
Il est blessé, déclara-t-elle au capitaine, en soutenant le petit personnage tremblant et en l'aidant à s'asseoir.
Emmenez-le pour qu'il soit soigné, je m'occupe de l'arbitrage. Pas besoin de porte-voix. Mes sonneurs annonceront le début de chaque combat, et je serai sur le terrain pour proclamer le vainqueur.
Au milieu de l'arène, le plus populaire des 30 prétendants était sans conteste Philibert d'Artille. Grand, yeux bleus, cheveux longs et blonds cascadant sur ses épaules recouvertes d'une longue cape bleue au liseré d'or. Bottes bleues gainant ses mollets jusqu'aux genoux, collants en rouge et vestes de même couleur moulaient son torse bombé comme celui d'un coq de basse-cour. Philibert d'Artille, qui arborait un sourire conquérant, déclencha une hystérie collective dans les deux premiers rangs, uniquement occupés par des jeunes femmes qui scandaient son nom avec ardeur. Parmi les filles au bord de la crise de nerfs qui brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Philibert, je t'aime »,« Philibert, emmène-moi au septième ciel » et autres fadaises auréolées de traces de rouge à lèvres et de petits cœurs bien roses, deux jumelles parfaitement identiques se détachaient nettement. Il était en effet impossible de ne pas remarquer les deux blondes déraisonnablement sexy qui agitaient les pompons en faisant de leur mieux pour faire voler leurs courtes jupes plissées et exhibaient fièrement des décolletés ravageux. Lorsque l'une des jumelles, en extase, hurlait « Mon fifi !» L'autre répondait « Mon bébé !»
Hein, quoi? On me demande une fichette?
Dis donc, c'est rapide un fluo tréal, mais non, il s'agit pas de toi, bébé, pas cette fois.
Ah bah merci, c'est agréable. Je vous jure, j'offre des services impeccables et rapides, et on donne mon nom à quelqu'un d'autre. C'est inacceptable.
Eh bé, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu râler, toi. C'est les filles là-bas, elles crient « bébé » pour Philibert.
Quoi? Elles ont osé donner mon nom à l'autre Andrew déguisé en super-héros de la loose? Non mais je rêve. En plus, sa fiche est moisie, il va sombrer dans l'alcool et finir estropié, pouilleux et mendiant.
Mais vivant, ce qui n'est déjà pas mal après avoir affronté Rohor en duel.
Ouais, ça c'est pas faux.
Toutes les filles de Rapière étaient donc amoureuses de Philibert. Le bellâtre se pavanait devant elles et envoyait des baisers soufflés qui occasionnèrent quelques évanouissements là-bas aux lèvres. Après une bonne dizaine de minutes d'assouplissement, rejetant sa cape en arrière dans un geste théâtral, Philibert tendit sa main gantée de cuir diaphane. Un laquais accourut et y déposa un fleuret rutilant à la garde incrustée de pierreries. Philibert se planta crânement devant le troll, amena sa magnifique lame bien à la verticale devant son nez, puis la porta sur le côté dans un ample geste avant de se mettre en garde.
« En garde !» ordonna le capitaine d'un ton péremptoire. « Prêt ? Allez !»
Philibert d'Artille se fendit en avant d'une superbe détente. L'acier parfaitement effilé siffla en fendant l'air, mais ne parvint pas à entamer l'épais cuir du troll. Rohor, impassible, s'empara de la pointe de l'arme dérisoire et maintint la lame arquée à la limite de son élasticité. Le bourreau des cœurs, saisissant avec horreur le ridicule de la situation, vira instantanément à l'écarlate.
« Lâchez mon arme, espèce de grotesque! Battez-vous comme un homme !»
Devant le sourire goguenard du troll, Philibert en appela aux autorités.
« Faute ! » hurla-t-il, alors que les sifflets retentissaient déjà dans la foule. « Battez-vous ! » intima le capitaine Drakkor.
Rohor fut le premier à réagir et planta en un éclair sa courte épée dans le pied de son adversaire sidéré, le clouant au sol. Philibert poussa un cri de douleur et lâcha la poignée de son fleuret, dont la lame, toujours pliée en deux par le troll, se détendit d'un coup. La coquille de l'arme, incrustée de diamants, vint percuter violemment la mâchoire du malheureux prétendant au trône qui s'effondra assommé et délesté de quelques dents. Les trompettes de la garde sonnèrent la victoire.
« Le champion de la princesse Linéa est déclaré vainqueur !» proclama le capitaine, dissimulant à peine sa satisfaction.
La foule, un peu déçue par le manque de spectacle, applaudit sans enthousiasme. Le concurrent suivant, surnommé Janus Labotte, se présenta devant les premiers rangs où les filles, éplorées l'instant d'avant, retrouvèrent instantanément le sourire. Prouvant qu'elles avaient plus de jugeotes que de suite dans les idées, elles retournèrent leurs pancartes, au dos desquelles, en femmes prévoyantes, elles avaient déjà inscrit le nom du deuxième prétendant le plus plausible. Les hurlements stridents reprirent donc, mettant cruellement terme à la gloire de Philibert.
« Janus, on t'aime! Janus, dans mon lit » pouvait-on lire désormais sur les panneaux brandis avec ardeur.
Les jumelles dansaient sur place, faisant rebondir leurs attributs.
« Mon Gigi !» hurla la première. « Mon Anu !»
Ah bah non alors, ponctua la deuxième tout à coup, quelque peu embarrassée.
Janus Labotte ne ressemblait en rien aux autres prétendants.
Petit, tout en air, le regard vif, il avait obtenu ses titres de noblesse au fil de son fleuret. Son adresse légendaire lui avait attiré la sympathie de la reine et le respect du reste de la noblesse de Rapierre. Le bretteur se planta donc face à Rohor et essaya de percer le regard impassible du troll.
« Je vais te découper en rondelles, je suis la meilleure lame du plan tout entier. Tu vas te rendre compte qu'un gros gabarit est aussi un gros handicap. »
Comme l'exigeaient toutes les bonnes règles de l'escrime, Janus présenta son arme devant son visage. Mais avant que le capitaine n'ait eu le temps de mettre les combattants en garde, Rohor ricana l'air méprisant.
« Mais qu'est-ce que t'as ?» demanda Janus hargneux.
« C'est du toc ton pic à brochette, il est fêlé, si je le pue en deux, il pète. »
« Certainement pas !» rétorqua Janus outré. « Ce fleuret est fabriqué par le meilleur armurier de Rapierre et t'apprendra gros lard, car Rapierre en fabrique les meilleures armes de duel du monde !»«
N'empêche, elle est pas souple !» s'entêta le troll en s'emparant de la lame tout en la pliant à fond.
Janus releva son dernier défi et maintint son poignet verrouillé. Sans prévenir, Rohor relâcha tout, et la lame vint claquer si fort sur le visage médusé de Janus que la pointe alla entamer les muscles de sa nuque. Le menton, la lèvre, le nez et le front du présomptueux duelliste furent fendus jusqu'à l'os. C'est entre les mains expertes des soigneurs que Janus Labotte entendit ce que jamais il n'aurait cru entendre.
Janus Labotte perd le duel par forfait. Le vainqueur est le champion de la princesse Linéa.
Cette fois, le public manifesta sa désapprobation par de longs sifflets et des « Ouh !» ainsi que quelques jets de projectiles pas frais.
« C'est nul !» hurlait la grosse dame, brandissant toujours sa gigantesque chope dont elle se versa le contenu sur le sommet du crâne avant de balancer le contenant sur la rangée de prétendants trépignant d'impatience.
L'un d'entre eux, bousculant ses congénères, se fraya un chemin vers le début de la file dans un concert de protestations.
Un duel pas du tout prévu au programme éclata sur la petite place pavée, juste devant des rangées de filles perplexes qui ne savaient plus quelle pancarte bandir.
Antard de Bâle, qui venait de prendre la première place dans la file, embrocha sans façon le concurrent qu'il venait de spolier et gagna le centre de l'arène sans même prendre le temps d'essuyer sa lame assassine encore dégoulinante de sang vermeil. Sacrifiant au rituel de début de duel en une fraction de seconde, le spadassin fondit sur Rohor dont l'épaule gauche s'ouvrit d'une large plaie avant même que la lame ne l'ait touchée. Un flot de sang inonda le sable humide de l'arène quand le troll tenta de parer le coup suivant de son bras valide. La lame du fleuret, pourtant d'une finesse qui n'était pas sans rappeler le pic à saucisse ou l'aiguille à tricoter de mémé, trancha en deux la lourde lame d'acier que Rohor plaçait dans une parade parfaite. Du haut de sa tribune, Linéa fit une fois encore preuve d'une vivacité d'esprit redoutable en soulevant le pied qui libéra le foulard rouge.
« Voilà donc celui que ces salopards de mages me destinaient secrètement, pensa-t-elle. Ces fourbes ont enchanté sa lame. Hors de question qu'il se débarrasse de mon champion aussi facilement. »
Au moment où le pion des mages allait mettre fin à la carrière d'aventurier de Rohor, un foulard magique et poisseux de morve princière vint se plaquer sur son visage. Rohor profita de cette occasion pour faucher les jambes de son adversaire qui s'effondra sans y croire, avant de ressentir une fulgurante douleur des 200 kilos de troll lui broyant les vertèbres dans un craquement répugnant. De leur tribune privée, les mages étouffèrent des jurons et fusillèrent du regard la petite princesse qui les défiait. Une fois encore, le combat n'avait duré que quelques minutes, et cette fois, la frustration du public porta atteinte à l'intégrité physique du mobilier des tribunes. Les supporters déchaînés commencèrent à se battre entre eux, en voyant valser fauteuils, chopes, godillots et autres spectateurs. Les plus imbibés d'alcool descendirent sur l'arène pour en découdre avec la vingtaine de concurrents restants dans un désordre absolu. Alors que le troll enragé enfonçait la tête de feu Antard de Bâle dans les sables imprégnés de sang, le capitaine le rejoignit en courant.
« C'est le moment de tailler la route »
cria-t-il à Rohor pour se faire entendre au milieu du tumulte assourdissant de la bagarre qui se répandait comme une traînée de poudre.
« Vos amis nous attendent déjà dans l'entrepôt à la sortie de la ville. Venez, je vous accompagne !»
Rohor se releva et de son bras valide tendit au capitaine de la garde le fleuret enchanté.
« Cadeau !» dit-il avec un sourire complice avant de récupérer les morceaux de son arme brisée.
Après un signe discret adressé à la princesse, le capitaine Dracor entraîna Rohor en dehors de la ville sans difficulté. Le reste de l'équipe les attendait dans un hangar, entre des rangées de caisses et de sacs de toile où Stirlord avait attelé la charrette à Lucette, abondamment garnie de vivres.
« Allez en route !» commanda le capitaine Dracor en attachant la bride de son fringant destrier à l'arrière du véhicule.
Bah quoi, c'est tout?
Comment ça c'est tout? T'as dit qu'il fallait pas faire trop long, alors je fais pas trop long.
Excellente initiative, narrateur. Tu progresses, tu progresses.
Et dis donc, en fait, il était pas question à un gonnet après chaque épisode.
Ah, ça c'est pas reçu. Bon bah moi je t'ai...